recherche spatiale. On pédale aussi dans l'esprit d'initiative. Un kiné fait le tour de France à vélo avec sa famille pour promouvoir les maisons de santé pluriprofessionnelles. France Inter, 6h. Le journal, Christelle Rebière, bonjour.
Bonjour à tous. Pas d'écran avant 3 ans, pas de portable avant 11 ans, pas d'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans. Le rapport destiné à protéger nos enfants des écrans est remis aujourd'hui à Emmanuel Macron. Gérard Depardieu sera jugé en correctionnel en octobre prochain pour agression sexuelle. L'acteur a passé la journée d'hier en garde à vue à Paris. Gros plan sur les petites listes des européennes. Beaucoup se font les défenseurs de la ruralité. Dans ce journal aussi, la Thaïlande qui subit une canicule intenable. Et en football, chaud devant, le Bayern Munich reçoit le Real Madrid en demi-finale allée de la Ligue des Champions. 20 étoiles à eux deux.
France Inter.
Quels écrans pour les enfants et à quel âge? Un groupe d'experts remet son rapport cet après-midi à Emmanuel Macron et son titre est explicite: à la recherche du temps perdu. Il en va de l'avenir de nos sociétés, de nos démocraties, avait dit le chef de l'État. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Et pour reprendre le contrôle, les préconisations sont drastiques.
Oui, le rapport recommande d'abord d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans. C'est une première étape, car ces experts réclament ensuite un accès fortement limité entre 3 et 6 ans, avec des contenus spécifiques et surtout accompagnés par un adulte. Pour les ados et pré-ados, la commission propose de n'autoriser le téléphone portable qu'à partir de 11 ans, avec un téléphone sans internet. Avant 15 ans, le téléphone devra bloquer les accès à tous les réseaux sociaux. Ces écrans que la commission demande d'interdire dans les crèches et les classes maternelles, les experts préconisent aussi de limiter autant que possible l'usage des téléphones portables et des téléviseurs dans les maternités. Si les experts pointent l'aspect néfaste des réseaux sociaux, qui peut générer de la dépression ou de l'anxiété, ils estiment, je cite, que les écrans ne sont pas à l'origine de troubles du neurodéveloppement. Reste à savoir comment le gouvernement va se saisir de ce rapport, car la mise en œuvre et le contrôle de certaines mesures paraissent compliquées à appliquer, comme l'interdiction des téléphones avec internet avant 13 ans et les réseaux sociaux avant 15 ans. Il manque encore des solutions techniques.
Victor Vasseur, le gouvernement devra décider de l'avenir de ces préconisations et de leur déclinaison concrète. En attendant, vous pouvez retrouver tout un dossier sur notre site franceinter.fr. L'adolescent de 15 ans, auteur des coups de couteau qui ont tué Mathis, du même âge à Châteauroux, a été mis en examen pour meurtre. Ce jeune Afghan, en situation régulière, est en prison et on n'en sait plus sur ce qui s'est passé samedi. D'après les premiers éléments de l'enquête, les deux ados se connaissaient. Des insultes, une altercation, un coup de poing donné par Mathis, selon son agresseur. Ce dernier est revenu avec un couteau. Sa mère aurait même asséné des gifles à la victime. Cette dernière est mise en examen. Elle a été placée sous contrôle judiciaire.
Gérard Depardieu sera jugé en correctionnel en octobre prochain.
Oui, jugé pour la première fois pour agression sexuelle. Hier, l'acteur a passé la journée en garde à vue au commissariat du 14e arrondissement de Paris après les plaintes de deux femmes. Elle dénonce des faits sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Ariane Grissel.
L'une de ces deux femmes était assistante réalisatrice sur le tournage, l'autre décoratrice. Toutes deux ont porté plainte au début de cette année. L'assistante réalisatrice décrit à nos confrères de Mediapart des attouchements à la poitrine et sur les fesses de la part de l'acteur à 3 reprises. Gérard Depardieu finit par s'excuser, mais lui fait vivre, dit-elle, un calvaire sur le tournage. Tandis que sa collègue décoratrice détaille la force phénoménale de l'acteur qui la maintient. Il me pétrit le ventre, la taille en remontant jusqu'à mes seins. Geste accompagné, selon son récit, de mots extrêmement crus. Gérard Depardieu lui conteste les faits. Pendant sa garde à vue, il a été confronté à cette dernière plaignante, mais il n'était pas convoqué que pour ces deux plaintes. Une troisième femme l'accuse de gestes similaires sur un tournage, cette fois en 2014, celui du film Le magicien et les Siamois. Elle aussi a été confrontée à l'acteur ce lundi, mais les faits sont prescrits et ne pourront dans tous les cas pas être jugés. Elle peut en revanche venir témoigner à l'audience du mois d'octobre.
Quant à la plainte déposée par l'actrice Charlotte Arnoux, qui accuse l'acteur de viol et d'agression sexuelle, le parquet de Paris doit rendre prochainement ses réquisitions. La chute d'un empire industriel, Arnaud Lagardère mis en examen notamment pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir. L'homme d'affaires est soupçonné d'avoir fait financer son train de vie en puisant dans les fonds de ses sociétés. L'héritier du groupe fondé par son père, dont il a cédé peu à peu les activités, notamment au groupe Bolloré, a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'a plus le droit d'exercer des fonctions de direction et doit fournir une caution de 200 000 euros. Les élections européennes, les tractations se multiplient dans les partis pour constituer les listes. Ils ont jusqu'au 17 mai pour les déposer. Ce scrutin, qui avait mobilisé un électeur sur deux en 2019, arrive dans la foulée d'une crise agricole massive où les agriculteurs ont dénoncé notamment une avalanche de normes imposées par l'Union européenne qui les étouffe. Et la ruralité, Antoine Geoffin, c'est justement l'axe de campagne de plusieurs listes.
Il faut diviser par deux le nombre de règles dictées par l'UE, avance Willy Schran, troisième sur la liste Alliance Rurale, conduite par Jean Lassalle. Le patron des chasseurs assure qu'il n'a pas attendu la colère des agriculteurs cet hiver pour porter cette revendication. Il souhaite aussi que les exploitants puissent transmettre leurs fermes plus facilement.
On a de telles taxes avec des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Comment voulez-vous pouvoir transmettre une terre qui, dans le fond, vaut cher parce qu'on est de plus en plus peuplé dans tous les pays européens? Comment on peut payer toute sa vie pour un outil de production, même pour ça, simplement sa maison, et quand vous mourrez, vos enfants doivent encore payer.
L'Alliance Rurale pousse pour des prêts à taux zéro pour tout jeune agriculteur qui voudrait s'installer, tout comme le sénateur du Tarn, Philippe Folliot, sur la liste Le Centre, qui veut une Europe moins verticale et une départementalisation des crédits européens.
Vous êtes élu d'un territoire rural, vous avez une demande de subvention à faire. S'il faut que vous adressiez à Bruxelles, ou s'il faut que vous adressiez dans votre capitale régionale, avec ces très grandes régions impersonnelles que nous avons aujourd'hui. Vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas entendu. Par contre, si vous allez à la préfecture de votre département, vous aurez une meilleure écoute.
Philippe Folliot appelle enfin à prendre en compte les contraintes des agriculteurs et qu'avant chaque interdiction de pesticides, l'UE leur fournisse des alternatives fonctionnelles.
Antoine Geoffin, il devrait y avoir une trentaine de listes. Et un rappel, si vous souhaitez voter, il faut vous inscrire sur les listes électorales avant demain. Un espoir de trêve entre Israël et le Hamas. Joe Biden demande aux dirigeants du Qatar et de l'Égypte qui mènent les échanges de faire tout leur possible pour obtenir la libération des otages dans le cadre d'un cessez-le-feu. Israël propose un cessez-le-feu de 40 jours et la libération de milliers de Palestiniens en échange des otages. On attend la réponse du Hamas. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, seule une trêve d'une semaine avait été instaurée en novembre. Le roi Charles III reprend ses activités ce mardi et il commence par visiter un centre de lutte contre le cancer. Tout un symbole pour le monarque britannique qui souffre de cette maladie et qui suit toujours un traitement. Trois fois moins de substances chimiques dangereuses dans les cosmétiques en 6 ans. L'association UFC Que Choisir publie son bilan. Le lobbying des consommateurs fait plier les marques. Mais l'association alerte encore notamment sur les crèmes solaires, le rouge à lèvres et les teintures capillaires.
50 degrés ressentis à Bangkok.
Une terrible vague de chaleur s'est abattue en Asie du Sud-Est ces derniers jours, en particulier sur la Thaïlande. Les plus fragiles, les personnes âgées et les plus pauvres, ceux qui ne disposent pas de l'air conditionné, souffrent énormément. C'est un reportage de Carole Isou.
Depuis quelques jours, la chaleur dans les rues de la capitale thaïlandaise est telle qu'il est devenu pénible de sortir de chez soi entre 10h du matin et 6h du soir. Ceux qui s'y risquent tentent de se protéger avec des ombrelles, mais beaucoup n'ont pas le choix. Comme Pinuk, un chauffeur de moto-taxi, maillon essentiel de la chaîne des transports urbains en Thaïlande. À 60 ans, il a déjà fait un malaise qui l'a conduit à l'hôpital il y a quelques jours. Mais le voilà de retour avec, pour affronter la chaleur, les moyens du bord.
Vous voyez, j'ai un petit linge mouillé. Je le mets sur ma tête pour éviter de refaire un malaise. Avec cette chaleur, c'est insupportable de faire plus de 500 mètres à moto sous le soleil. Alors on ne fait que des petits trajets, donc on gagne moins d'argent aussi.
Les médecins thaïlandais déplorent plus de 30 morts par insolation depuis le mois de janvier. Les autorités appellent à la vigilance alors que de nouveaux records de température viennent d'être atteints partout dans le pays. La réalité du changement climatique ne fait aucun doute pour la plupart des Thaïlandais. S'il venait à dépasser les 2 degrés, l'Asie du Sud-Est serait parmi les régions du monde les plus affectées et pourrait atteindre le seuil des 220 jours de chaleur extrême par an. Bangkok, Carole Isou, France Inter.
En sport, une affiche de rêve ce soir. Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid pour la première demi-finale allée de la Ligue des Champions. 20 Ligues des Champions à eux deux, 14 pour le Real, c'est un record, 6 pour le Bayern. Tombeur du tenant du titre Manchester City en quart de finale, le Real Madrid entretient encore sa légende. Une incroyable régularité à ce niveau, Nicolas Perronnet.
Les chiffres ont de quoi donner le tournis, et pas seulement aux supporters madrilènes. Le Real va disputer ce soir sa 33e demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions, la 17e en format Ligue des Champions, et c'est d'ailleurs l'histoire récente de la Maison Blanche qui rend jaloux tous les clubs européens. Sur les 14 dernières éditions, le Real Madrid a atteint le dernier carré à 12 reprises, avec 4 entraîneurs différents. Une régularité insolente, alors que le compteur du Paris Saint-Germain, sur la même période, affiche demain 3 demi-finales. Ce dernier carré, c'est donc depuis 2011 la routine pour le Real. Son jardin, seuls 2019 et 2020 échappent à la règle. Ce n'est pas une garantie de succès. L'aventure ne se poursuit en finale qu'une fois sur deux. Mais lorsque c'est le cas, là, la machine devient réellement implacable. Le club madrilène aux 14 étoiles a remporté ses 8 dernières finales disputées en Ligue des Champions.
Un coup d'envoi à 21h et demain, le PSG sera lui aussi en Allemagne sur la pelouse de Dortmund.
Christelle Rebière. À propos de sport, le sprinteur français Mouamadou Fall ne participera pas aux Jeux Olympiques. Il vient d'être suspendu 9 mois pour dopage. Alors lui avait plaidé la contamination accidentelle à cause de compléments alimentaires. Mais ce matin, dans Esprit Sport, on s'intéresse à un autre athlète français qui lui espère bien disputer les JO. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour.
Il s'agit de Thomas Gaugois.
Oui, alors l'athlétisme, Mathilde, il faut bien le dire, hein, c'est pas la discipline où la France aura le plus de médailles. On est un petit peu à la traîne, même si on a des athlètes ultra motivés pour briller cet été au Stade de France. Et Thomas Gaugois en fait partie. C'est un triple sauteur picard, licencié à l'Amiens UC Athlétisme. Il aura 24 ans le 24 juin et il s'est lancé dans le triple saut après une carrière de sprinter. Il l'explique à François Sauvestre de France Bleu Picardie.
J'aime ce qui est compliqué, ce qui est artistiquement beau aussi. Et le sprint, c'était de l'instinct. Comme on était en plus un peu jeune, voilà, tu cours, et c'est tout, sans manquer de respect. Hein. Mais le triple saut, c'était l'art de la difficulté. Tu fais un cloche, ensuite tu dois garder de la vitesse. Moi, je suis quelqu'un qui rebondit beaucoup, très hyperactif aussi. Et cette sensation de voler, je l'ai retrouvée dans aucune discipline autre que le triple saut. Et je me suis dit, c'est ce que je vais faire.
Il a dit quoi ? Tu fais un cloche ? C'est
oui.
Quoi un cloche ?
Alors le cloche en triple saut, c'est le prolongement de la course d'élan. C'est un saut à cloche-pied qui consiste à sauter sur un pied et se réceptionner sur le même pied. Alors Thomas Gaugois, bah, il maîtrise hein, le cloche, il est motivé, il aime sa discipline. Mais il y a quand même un problème de taille, Mathilde, c'est qu'il n'a pas encore validé hein, son billet pour Paris. Le triple sauteur a jusqu'au 29 juin et les championnats de France pour le faire.
Et il lui faudra améliorer son record personnel.
Oui, et c'est là où ça se complique un peu. Hein. Il faut qu'il fasse 17,20 m pour avoir sa qualification et son record personnel c'est 16,83 m. Ça fait quand même un différentiel de 37 cm.
Ah oui,
mais son entraîneur à Amiens, Alain Doré, est très très confiant.
J'ai aucun doute au fait que Thomas participe aux Jeux Olympiques. Je rêve d'une médaille olympique, du plus beau métal. Est-ce que ce sera en 2024 ou en 2028 ? Thomas, à 28 ans, il sera dans la plénitude.
Voilà, très confiant quand même. Hein. Alors la première étape, c'est quand même Paris 2024. Et pour arriver à ses fins, eh bien, Thomas Gaugois a également pu bénéficier des conseils de Teddy Tamgo, le champion du monde du triple saut en 2013.
Cédric Guillou pour Esprit Sport.
Ce mardi, Ryan Gosling, invité exceptionnel de la matinale.
France Inter, 7h50, Sonia Deville.
Après le triomphe mondial de Barbie, le chouchou d'Hollywood incarne un cascadeur dans The Fall Guy. À cette occasion, Ryan Gosling nous parle de son vertige, du chien de sa femme et du cinéaste français qu'il a le plus inspiré, Claude Lelouch.
L'interview de 7h50,
ce mardi matin sur France Inter, avec Ryan Gosling.
Il est 6h13.
France Inter. Le 5-7.
Ils ont passé 2 mois alités, la tête légèrement inclinée vers le bas. 12 volontaires participent à une étude clinique commandée par l'Agence spatiale européenne, pour simuler l'apesanteur et observer ses effets sur le corps humain. Depuis 10 jours, ces cobayes se relèvent les uns après les autres à la clinique spatiale à Toulouse et les tests continuent. Rémi Brancato pour le reportage Grand Angle.
C'est la séance de sport quotidienne dans cette petite salle.
Voilà, va chercher la vitesse de mouvement.
Après 60 jours alités, réalité, Yannick, 35 ans, est sur pied depuis 3 jours avec notamment des problèmes d'équilibre.
On a tous les symptômes d'être vieux, quoi, en fait. Voilà, c'est de l'équilibre, c'est de la force. Je me suis vraiment mis à la place de ma petite mamie, là, et puis derrière ça, après, on retrouve nos capacités, on sait que ça va revenir.
Théo Collin, le coach sportif, remet sur pied les volontaires.
On se base sur, évidemment, les réhabilitations spatiales pour que quand ils retournent chez eux, ils soient totalement autonomes. Quand les astronautes reviennent de mission, on les réhabilite sous le même protocole, c'est-à-dire retrouver de l'équilibre, de la force musculaire et ensuite de la vitesse pour qu'on puisse les remettre en mission le plus rapidement possible.
Dans la salle voisine, Enzo pédale allongé sur le dos. C'est un vélo spatial. Une 60aine d'électrodes sont fixées sur ses jambes et son crâne. Constance Badali, de l'Institut des neurosciences de Cologne, surveille l'exercice sur son ordinateur.
Ce que vous voyez là, c'est l'activité musculaire, celle des différents muscles. Vous pouvez voir, avec le cycle des pédales, quand le muscle fonctionne ou pas. Ça a l'air d'aller. Enzo a encore des muscles.
Vous avez encore des muscles. C'est rassurant d'un côté.
Avec son collègue Stéphane Schneider, ils suivent un des 14 protocoles scientifiques de l'étude.
On veut voir si, après 60 jours d'alitement, les performances musculaires diminuent et si cette diminution est localisée uniquement dans les muscles ou si elle affecte aussi le cerveau.
Pendant l'alitement, un tiers du groupe a fait du vélo, un tiers n'a eu aucune activité, le dernier tiers a pédalé tous les jours, mais dans une grande machine en sous-sol, une centrifugeuse qui simule la gravité.
La centrifugeuse rajoute un effort au niveau du cœur, au niveau du souffle. Combiner les deux, ça fait un effort assez intense. Et là, je me rends compte vraiment de tout le bénéfice, effectivement, de cette contre-mesure qui m'a gardé quand même bien en forme.
La solution pourrait être utilisé dans l'espace pour faciliter la vie des astronautes. Les différents résultats de l'étude permettront aussi de mieux comprendre les effets de l'alitement chez les malades ou les personnes âgées.
Et pour cette étude, les volontaires sont des hommes de 20 à 45 ans en bonne santé. Ils reçoivent 18 000 euros d'indemnisation versés en 3 ans. C'était le reportage Grand Angle de Rémi Brancato. Il est 6h16. Claude Eskelovitch vient de s'installer en studio avec sa pile de journaux pour la revue de presse. Bonjour Claude.
Bonjour.
Il y a quoi en haut de la pile ce matin?
Eh bien, à la une des Échos, il y a une belle photo du centre de Varsovie avec un immense immeuble en style néo-gothique construit sous Staline. Simple photo d'illustration. Europe de l'Est, 20 ans de miracle économique, car l'adhésion à l'Europe en 2004 des anciens pays soviétiques, communistes pardon, a été pour eux une prospérité. Le problème, c'est que ça a accéléré notre désindustrialisation. Ça, je l'ai dit, c'est dans les Échos passionnants. L'Europe, libération, la parcourt également. Europe, ceux qui l'aiment prendront le train. Magnifique voyage épique, train de nuit, train touristique, train de la liberté, sur le site de Libé et dans le journal papier. Hélas, le train n'est pas que bonheur et la Montagne édition de Corrèze et le populaire édition du Zan centre, titre sur Polt, Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, la ligne maudite. Maudite, ça ne marche jamais, vous allez voir pourquoi. À propos de transport compliqué, la une du Parisien, autoroute A13, quel chantier? Ce serait la faute aux travaux du musée du Grand Siècle de Saint-Cloud qui auraient créé les fissures qui embêtent la vie des citoyens de Paris et des Hauts-de-Seine. Allez, puisqu'on est dans l'enfer, j'en termine. La une de l'Est éclair, c'est très curieux. Elle vit un enfer après une dévitalisation. C'est une citoyenne de l'Aude qui depuis 10 ans souffre le martyre et au-delà parce qu'après une dévitalisation de la patte dentaire s'était bloquée dans un de ses sinus. Je tremble rien qu'en vous en parlant à l'Elysée, ça la consolera pas, mais ça mérite le détour. Bon.
Et dans votre choix, Claude, ce matin, il y a un certain Joël.
Qui, les dimanches soirs, à sa fenêtre, attend que revienne Elena, partie pour le week-end dans sa famille, et qui est Elena, son rayon de soleil. Et c'est donc d'amour que nous parle le Sud-Ouest, oh, mais sans écrire le mot. Mais le journal écrit tout de même coup de foudre pour dire la rencontre. Il y a 2 ans entre Elena, qui en est 23 et cherchait un logement pas cher pour finir ses études, et Joël, qui a 82 ans, avait de la place et surtout manquait de rires et de mots depuis que son épouse Madeleine s'était avancée dans les limbes d'Alzheimer. Ils n'avaient pas prévu cela, Madeleine et Joël, ils avaient tellement attendu la retraite pour se promener, prendre le temps, avoir la vraie vie. À la place, une vie qui rétrécit comme la marée se retire, écrit Sud-Ouest. Madeleine se tait, regarde Joël sans comprendre et lui sombre avec elle dans un trou profond. Il parle seul. Il a été sauvé du silence par une association, Vivre Avec, qui promeut la cohabitation intergénérationnelle rationnel solidaire, des mots savants pour un petit cadeau, immense cadeau. Par l'association, Elena a débarqué un jour avec sa valise, se demandant si elle aurait un peu d'intimité. Ça va. Pour 200 euros par mois, elle a chambre, salle de bain, accès à la cuisine. Et dans la cuisine, Joël partageait le café, une blague, des confidences, une figure grand paternelle. Entend-elle Madeleine dans son silence que son homme qui n'a jamais voulu qu'elle s'en aille et qui la nourrit chaque jour, entend-elle Madeleine que son Joël a retrouvé le rire? C'est un des articles que propose Sud-Ouest sur son site et chaque jour édition de papier sur des bonheurs de vieillesse. À 61 ans, je les regarde comme un futur envisageable.
Claude Eskolovitch pour la revue de presse et vous revenez à 9h moins le quart pour une nouvelle lecture des journaux. Il est 6h19, voici l'esprit d'initiative, la chronique qui fait le tour des bonnes idées. Bonjour Cécile Bidot.
Bonjour Mathilde.
À Toulouse, vous avez croisé la route d'une famille qui fait aussi son tour de France, mais à vélo.
La famille Fonte, originaire de l'Isère, a démarré son périple dans le Finistère à la fin du mois d'août. Au programme pour ce couple et ses trois filles âgées de 6 à 9 ans, 5000 km à parcourir d'ici à la fin juin.
Vous avez bien pédalé les filles ?
Oui, c'était dur avec le vent.
Ah si, là on a pris 5 km plein vent de face pour venir ici, là c'était coton.
Dans la famille Fonte, je demande donc le père, Sylvain. Il est kinésithérapeute et c'est lui qui est à l'origine du voyage. Il exerce dans une maison de santé pluriprofessionnelle, une structure où les professionnels de santé travaillent ensemble et où les patients sont suivis dans leur globalité. À chaque étape de ce Tour de France, Sylvain visite donc des maisons de santé de ce type.
Ma conviction soignant, c'était de pouvoir apporter le soin là où il y en a le plus besoin. Et je me retrouvais clairement en difficulté personnellement en ayant peu d'échanges avec mes collègues, notamment avec mes collègues médecins qui sont mes prescripteurs finalement. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve à travailler au quotidien avec 20 médecins, avec 15 infirmiers, avec des pharmaciens, des orthoptistes, des orthophonistes. Et l'échange pluriprofessionnel, en fait, il me nourrit au quotidien. Et j'avais envie de parler de ce qui va bien dans le système de santé et d'arrêter de parler systématiquement de ce qui ne va pas.
Là, Sylvain, on l'entend, on est au bord de la route. Hein, à Toulouse. Vous partez où, là ?
Donc là, je remonte le canal latéral à la Garonne de Toulouse et on va jusqu'à Montèche aujourd'hui.
Je vais peut-être vous laisser partir en famille alors.
Tu mets ton casque, Maïla ?
Oui.
Tu vas remonter sur ton vélo, Adèle ?
Oui.
C'est lequel ton vélo ?
C'est le vert là-bas.
Alors Pema et Maïla, vous êtes prêtes aussi ?
Non, moi j'ai pas envie de partir, de faire 45 km juste en après-midi.
C'est fastoche ?
Non. J'adore le Tour de France à vélo, on est les reines du vélo !
Allez, c'est parti! Go!
La joyeuse troupe roule entre 3 et 4 heures par jour. Les nuits se passent au camping. Dans les sacoches accrochées au vélo, il y a tout ce qu'il faut. À Toulouse, l'étape a eu lieu à la Fédération de l'exercice coordonné pluriprofessionnel en soins primaires. Manon Reynal en est la directrice.
À chacun de ces arrêts, ça permet aussi une valorisation de cette forme de nouvel exercice qui date d'il y a 15 ans seulement, de maison de santé pluriprofessionnelle. Et les équipes sont toujours ravies, je le sais, de le recevoir, de l'expliquer, ce qui fait que ça fonctionne pour leur collectif et ça fonctionne pour leur patientèle. C'est toujours une vraie valorisation et un vrai honneur, en fait. On n'est pas de super communicants au niveau des professionnels de santé. Cette visibilité, ça va nous permettre aussi de dire aux citoyens, vous pouvez vous saisir de l'offre de services qu'on met en place.
Il y a aujourd'hui 2500 maisons de santé pluriprofessionnelles en France. Objectif affiché, 4000 en 2027.
Et en plus de pédaler, Sylvain Fonte réalise des vidéos et des articles tout au long du parcours. Cécile, vous avez mis le lien sur le site de France Inter ?
Évidemment.
À la page Esprit d'Initiative.
France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h22. L'invité du 5-7 ce matin est candidat aux élections européennes. Bonjour Pierre Larouturoux.
Bonjour.
Fondateur du parti Nouvelle Donne, vous êtes eurodéputé depuis 5 ans. En 2019, vous étiez dans la liste emmenée par les socialistes. Cette fois-ci, vous présentez votre propre liste, mais vous préféreriez une liste d'union de la gauche. C'est donc encore faisable ?
Oui, oui, aucune liste ne sera déposée avant le 6 mai, mais si on a décidé de lancer cette liste « Changer l'Europe », c'est parce qu'on pense qu'on est face à une crise sociale gravissime et qu'on ne met pas sur la table des solutions à la hauteur. Vous parlez quasiment toutes les semaines des services publics qui s'effondrent dans notre pays, l'éducation, la santé. Il y a des millions de gens qui ont du mal à vivre au quotidien parce que les loyers sont trop hauts. Il y a des milliers d'agriculteurs ou d'auto-entrepreneurs qui n'arrivent plus à vivre. Et donc nous, on veut mettre la liste « Changer l'Europe » arrive avec des solutions très concrètes pour rompre, pour stopper l'Europe de l'optimisation fiscale et pour arriver avec l'optimisation sociale, prendre ce qui marche le mieux dans chaque pays en matière sociale et en faire la règle européenne.
Alors on va détailler vos propositions, mais juste pour que je comprenne bien, vous voulez faire l'union avec qui à gauche ?
Écoutez, on tend la main à tout le monde. Est-ce qu'on a compris l'urgence
climatique ? Donc socialiste, écologiste, communiste et insoumis ?
Oui, oui, mais ce qui compte, c'est de dire qu'il y a des solutions très concrètes. Est-ce que on peut mettre, je suis député européen, je suis rapporteur général du budget et je sais qu'on pourrait mettre 300 milliards chaque année pour le climat. Une banque du climat qui met 300 milliards pour la rénovation thermique, les transports en commun, pour l'accès à l'électricité en Afrique. C'est possible. Et on a rédigé le traité qu'on propose de mettre à référendum pour qu'il y ait 300 milliards chaque année pour le climat. La semaine de 4 jours, 32 heures, sans baisse de salaire, j'ai obtenu un projet pilote au niveau européen. C'est comme ça que Erasmus est né. Au début, les gens rigolaient. mais il y a 12 millions de gens qui ont profité d'Erasmus avec ce projet pilote Erasmus. Et bien moi, j'ai obtenu un projet pilote sur la semaine de 4 jours. Il y a déjà 500 entreprises qui sont passées à 4 jours, 32 heures, sans baisse de salaire, et ça marche très bien. Est-ce qu'on donne enfin un contenu à l'Europe sociale? Ça fait 30 ans qu'on parle de l'Europe sociale. Mmh. Au Danemark, tous les jeunes, pardon si je suis trop long, mais au Danemark, tous les jeunes entre 18 et 25 ans ont une allocation d'autonomie pour vivre correctement, pour avoir du temps pour leurs études, leur vie perso, sans faire des petits boulots. Donc s'il y a une allocation d'autonomie pour tous les jeunes au Danemark, pourquoi ce n'est pas le cas dans toute l'Europe?
J'aimerais reprendre quelques-unes des mesures que vous avez évoquées, par exemple cette grande banque du climat et de la biodiversité. Est-ce que la lutte contre le changement climatique, c'est encore porteur politiquement? Je vous pose la question parce qu'on a vu que pour répondre à la crise agricole, ce sont souvent les contraintes environnementales qui ont été remises en cause en premier, que la fin des moteurs thermiques en Europe en 2035 est elle aussi remise en question, qu'Emmanuel Macron dit vouloir faire une pause. C'est porteur politiquement encore l'Europe, l'écologie?
Dans votre journal de 6 heures, vous avez dit qu'il faisait 50 degrés à Bangkok aujourd'hui. 50 degrés dans le Pas-de-Calais. L'autre jour, j'ai vu les paysans qui ont tout perdu à cause des inondations. Et par contre, dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a plus une goutte d'eau. Là, il pleut depuis 2 jours. Donc, on est face à une catastrophe climatique. Et si on fait une pause, comme le demande Emmanuel Macron, c'est juste l'horreur pour nous et nos enfants. Nos enfants vont nous détester dans 20 ans. On va vers des catastrophes de notre vivant. On va connaître le chaos. Donc, moi, j'ai bossé, j'ai travaillé avec des gens de la Banque Centrale Européenne, des gens de la BEI. Et je suis rapporteur général du budget. Ça veut dire quand même que le Parlement me fait confiance sur toutes les questions financières. Et je suis persuadé, j'en suis sûr, qu'on peut mettre 300 milliards chaque année en utilisant autrement ce qu'on appelle le quantitative easing, les 3000 milliards que la Banque Centrale a créé depuis quelques années. Et on propose de le soumettre par référendum, parce qu'il y a toujours un lobby des banques qui ne veut pas, il y a un lobby du pétrole qui ne veut pas. Et donc on propose un électrochoc démocratique, que cette banque du climat soit proposée par référendum.
Pierre Larouturou, je suis sûr que vous avez écouté le discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Est-ce que vous défendez la même Europe?
Non, évidemment, il faut une Europe de la défense. On est dans un monde dangereux. Déjà, en 92, à Sarajevo, c'était l'horreur. Et les États-Unis ne faisaient rien. On disait, il faut une défense européenne, il faut une diplomatie. Ça, c'est vrai. Mais il faut aussi agir sur la crise sociale. Encore une fois, est-ce qu'on se donne des critères sociaux? Avec Michel Rocard, avec Stéphane Hessel, en 2003, on avait dit, on peut pas continuer à être guidé uniquement par des critères financiers. Aujourd'hui, Bruno Le Maire nous parle toutes les semaines uniquement des critères financiers, les 3% de déficit. Mmh. Au nom des 3% de déficit, il faut couper dans l'éducation ou la santé. Nous, on propose de mettre des critères sociaux pour faire baisser les loyers, pour s'intéresser à la vie quotidienne des gens. Donc, on veut changer l'Europe. Et quand Emmanuel Macron dit que l'Europe peut mourir, oui, mais c'est lui qui la pousse dans la tombe. C'est la France qui bloque aujourd'hui quand le Parlement demande une taxe sur les transactions financières. J'ai fait voter 3 rapports en 3 ans pour demander une petite taxe sur les marchés financiers qui nous donnerait 57 milliards chaque année. 57 milliards pour la santé, le climat et l'emploi. J'ai tout le Parlement européen avec moi, sauf l'extrême droite. Et le pays qui bloque, le seul pays qui bloque aujourd'hui, c'est la France. Donc Emmanuel Macron, il y a 7 ans, je l'avais applaudi, son discours de la Sorbonne, je l'avais félicité. Mais aujourd'hui, plus personne n'y croit. C'est la France qui bloque les avancées en matière de fiscalité plus juste et plus durable.
Et pour revenir à vos éventuelles alliances politiques, justement, pour porter toutes ces mesures que vous défendez, vous pensez qu'il faut y aller donc avec d'autres listes, avec d'autres partis à gauche, pas tout seul?
Écoutez, nous, on peut y aller tout seul. Il y a 10 ans, Nouvelle Donne avait fait un peu plus de 3%. On avait créé la surprise, plus de 500 000 personnes avaient voté pour nous. Et depuis, nos idées ont encore progressé. Mais on tend la main. Encore hier, des jeunes engagés pour le climat m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on ne fait pas une campagne ensemble avec Marie Toussaint. L'idée de la Banque du climat, ça devrait lui aller. La semaine de 4 jours, 32 heures. L'idée d'un référendum pour un électrochoc démocratique.
Qu'est-ce qu'elle vous dit justement, Marie Toussaint, qui est la chef de file des écologistes?
Écoutez, on lui tend la main. J'espère l'avoir dans les prochains jours. Je pense que nos projets sont tout à fait compatibles et que ça aurait de l'allure. On pourrait avoir un super projet et faire une super campagne si on était ensemble.
Donc c'est pas vous qui hésitez, mais plutôt eux qui veulent pas trop de vous pour le moment, si je comprends bien.
On leur tend la main en disant est-ce que notre projet ne permettrait pas d'améliorer, si on prend le meilleur dans ce cas, le projet de Marie Toussaint et le meilleur dans notre projet, on pourrait avoir un super projet, faire une super campagne. Je vois tous les jeunes, on va sans doute avoir la liste la plus jeune. Si on reste nous tout seuls, changer l'Europe, il y a plein de jeunes engagés pour le climat qui viennent avec nous, mais ils seraient encore plus contents si on faisait une liste commune avec Marie Toussaint ou avec d'autres.
Et parmi les mesures, hein, vous l'avez évoqué, il y a la défense de la semaine de 4 jours. J'en parle parce que vous allez justement sortir un livre sur le sujet qui sera publié dans 2 jours, hein, le 2 mai, la semaine de 4 jours. C'est possible. Merci Pierre Larouturou.
Notre but, pardon, est de dire que l'Europe peut être au service du bien commun. On a droit au bonheur, on n'a qu'une vie, et au lieu que l'Europe soit au service des banquiers et des milliardaires, il faut mettre l'Europe au service du bien commun, et l'Europe est le bon niveau pour mettre la finance au service du bien-être de tous, y compris par la semaine de 4 jours.
Pierre Larouturou, merci beaucoup. Quant aux élections européennes, c'est le 9 juin en France.
France Inter, c'est aussi sur les réseaux sociaux.
Sur Instagram, retrouvez le meilleur des émissions, nos Reels et nos stories.
Facebook, X, Snap, Insta, Twitch, TikTok, abonnez-vous.
6h28.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Bonjour Marie-Pierre Planchon.
Bonjour Mathilde.
On va avoir un temps perturbé sur une grande partie du pays.
Eh oui, d'un côté, en fait, on a la perturbation d'hier qui va stationner sur la partie centrale du pays. Elle va générer des remontées pluvieuses qui vont s'attarder ce matin entre le Roussillon et les Cévennes. Puis dans son prolongement, on a d'autres pluies éparses qui s'étendent de l'Occitanie en remontant jusqu'au Hauts-de-France, en passant par l'Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire, ainsi que sur l'Auvergne, la Bourgogne, la Champagne. Puis au fil des heures, le noyau le plus pluvieux va faiblir en se décalant un petit peu vers le Languedoc. Et puis sur les régions de l'Est, excepté en Alsace, l'instabilité se renforcera avec des orages parfois intenses qui vont circuler. Puis par contre, à l'ouest, on a aussi une autre perturbation qui va essayer de rentrer sur le Finistère et qui gagnera en journée la Bretagne. Mais de la Nouvelle-Aquitaine à la Basse-Normandie, on peut profiter quand même de belles éclaircies avant qu'une perturbation n'arrive par l'Atlantique.
Et il fait un peu plus doux ce matin.
Oui, ça reste contrasté. C'est quand même descendu à un petit degré dans le Doubs à Pontarlier, 2 dans l'Orne, mais on relève 18 à Toulon, 20 à Menton, 12 à Paris, vous réveillez avec 11 à Lille, 7 à Bordeaux, 9 à Garé. Cet après-midi, ça restera stationnaire à peu près. Bon, par endroits, on sera quand même bien au-dessus des normales, comme à Strasbourg où il y aura 26 degrés, mais vous n'aurez que 13 à Brest, 16 à Montpellier et 19 à Paris.
Marie-Pierre Planchon, avant le journal, j'ai quelques secondes pour vous annoncer que France Inter lance un grand concours de création de podcasts à destination des classes de CM2, ça s'appelle l'école des Odyssées. La classe gagnante sera invitée à enregistrer son histoire dans nos studios avec Laure Grand Besançon et verra son récit intégré au fil du podcast France Inter des Odyssées. Le concours débutera en septembre, mais les inscriptions sont déjà ouvertes si vous êtes enseignant en CM2 ou simplement parent et que vous pensez que cela peut motiver la classe de votre enfant. Vous trouverez toutes les informations utiles sur franceinter.fr. Il est 6h30. Un nouveau journal sur France Inter avec Laurence Paracuellos. Bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. À la une ce matin, le scénario d'une dispute qui tourne au drame. L'adolescent de 15 ans qui était en garde à vue a été mis en examen hier avec sa mère après le meurtre du jeune Matisse à Châteauroux samedi. Détail dans un instant. Un procès de Pardieu convoqué au mois d'octobre devant la justice pour agression sexuelle lors d'un tournage en 2021. Dans ce journal aussi, le PDG de Total défend sa stratégie devant une commission de sénateurs. Le pouvoir qui organise la riposte en Géorgie après les manifestations du week-end contre un projet de loi jugé liberticide. Et puis le sprinteur français Mouamadou Fall, quadruple champion de France du 100 mètres, suspendu pour dopage, il ne fera pas les Jeux Olympiques.
France Inter.
Soupçonné d'avoir poignardé le jeune Matisse, 15 ans, samedi à Châteauroux, un adolescent du même âge a donc été mis en examen pour meurtre et écroué hier soir. Sa mère est aussi poursuivie pour avoir frappé la victime. Tous les deux sont de nationalité afghane, en situation régulière. Les deux ados avaient des amis communs, ils s'étaient retrouvés ensemble un peu plus tôt dans la journée, Jérôme Collin.
L'auteur des coups de couteau et Matisse se connaissaient. Samedi avant l'agression, ils se croisent, les insultes fusent de chaque côté. Une deuxième altercation éclate un peu plus tard. L'agresseur affirme alors avoir reçu un coup de poing de Matisse, occasionnant une incapacité totale de travail évaluée à 3 jours. Pris de colère, il va dans son immeuble, saisit une lame de couteau et revient pour asséner plusieurs coups à Matisse, dont un qui touche la victime en plein cœur. La mère du meurtrier présumé est également impliquée. Selon la procureure de la République de Bourges, cette femme de 37 ans suit son fils au moment des faits et elle assène des gifles à la victime. Elle est mise en examen pour violence volontaire, mais laissée libre, sous contrôle judiciaire, avec interdiction de sortir du département de l'Indre.
Jérôme Collin, France Bleu Berry, le père de Matisse, souhaite que ce drame ne fasse pas l'objet de récupération politique. Gérard Depardieu, jugé pour agression sexuelle. L'acteur comparaîtra au mois d'octobre, après la plainte de 2 femmes qui avaient travaillé avec lui sur le tournage du film Les Volets Bleus en 2021. Ce sera son premier procès depuis la vague d'accusations dont il fait l'objet. Gérard Depardieu est par ailleurs mis en examen pour viol dans une autre affaire. Et puis au chapitre judiciaire encore, Arnaud Lagardère mis en examen hier soir, lui notamment pour abus de biens sociaux. Le PDG est soupçonné d'avoir pioché dans les comptes de ses sociétés pour son train de vie et ses dépenses personnelles entre 2009 et 2019. 2022. Son groupe est depuis passé sous le contrôle de Vincent Bolloré.
Hier, un autre grand patron était sur le grill au Sénat.
Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, interrogé par une commission de sénateurs sur la cohérence de ses activités au regard des engagements climatiques de la France. L'audition de Patrick Pouyanné était donc le point d'orgue de leur travail, Sandy Dauphin.
Durant 2h15, Patrick Pouyanné explique posément sa stratégie dans une ambiance feutrée, continuer de faire du pétrole et du gaz tout en investissant dans les énergies renouvelables. Sans surprise, les questions les plus critiques viennent du rapporteur écologiste Yannick Jadot à l'origine de cette commission.
Votre stratégie est en contradiction avec celle demandée par l'Agence internationale de l'énergie qui est plus de nouveaux gisements au pétrole et en gaz. Donc au fond, quand je dis que vous participez à une vingtaine de bombes climatiques, comment... Au-delà de l'intérêt économique, vous justifiez cette trajectoire.
La demande en pétrole va ralentir, voire décliner un jour, dit Patrick Pouyanné. En attendant, le PDG de la majeure pétrolière la plus rentable au monde explique qu'il va continuer d'investir dans le pétrole et le gaz tant qu'il y aura de la demande. Et au passage, Patrick Pouyanné tacle l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE.
En gros, si je suis des conseils consistant à ne plus investir dans le pétrole et le gaz, eh bien, les 100 millions de barils par jour que nous avions en 2022 seraient devenus 96 millions de barils par jour, alors que la demande est montée à 102. À la fin, la demande est égale à l'offre et celui qui fait l'ajustement, c'est le prix.
Quant à la question d'un sénateur sur les importations de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie, Patrick Pouyanné répond « Si l'Europe bannit le GNL russe, il faudra aller le chercher ailleurs et plus cher. »
Sandy Dauphin, y aura-t-il une trêve à Gaza? Les négociateurs attendent la réponse du Hamas aussi vite que possible après une réunion au Caire hier. Le mouvement palestinien doit se prononcer sur une proposition négociée entre l'Égypte et Israël. Selon le chef de la diplomatie britannique, il s'agirait d'un cessez-le-feu de 40 jours et de la libération de milliers de prisonniers palestiniens en échange de la libération d'otages israéliens. L'Américain Anthony Blinken, attendu aujourd'hui en Israël, espère une réponse favorable du Hamas.
En Géorgie, des milliers de personnes étaient encore dans la rue hier.
Manifestation organisée par le pouvoir après celle des pro-européens ce week-end contre un projet de loi sur l'influence étrangère qu'il redoute de voir utiliser comme en Russie pour étouffer la dissidence. Le gouvernement a donc mobilisé ses troupes pour soutenir son discours anti-occidental. Un reportage à Tbilissi, Régis Janté.
Patrie, langue, orthodoxie, cela aura été le slogan de l'énorme manifestation du parti au pouvoir, le rêve géorgien, ce lundi soir. Comme jamais, les dirigeants de la majorité se sont montrés anti-occidentaux. D'abord sur le plan des valeurs, disons, dépeignant l'Occident comme facteur de décadence, à l'image du maire de Tbilissi, l'ancien footballeur Karakaladze.
Ils prétendent que le blanc est noir, que la transparence est mauvaise, que la propagande homosexuelle est bonne. Ils prétendent que les ONG ont le droit de faire autant de révolutions qu'elles veulent et que nous n'aurions pas le droit de poser des questions sur l'origine de ces financements.
L'Occident, sur lequel la Géorgie s'est tant appuyée depuis 3 décennies, est soudain coupable de tout. Propagande LGBT, pédophilie, drogue. Ces arguments portent auprès d'une foule qui, certes drainée là en minibus depuis tout le pays, grâce à une organisation très rodée, adhère de plus en plus aux messages martelés par le pouvoir depuis des mois, créant un fossé de plus en plus marqué entre deux Géorgies. Tbilissi, Régis Janté, France Inter.
Pas d'écran avant 3 ans, pas de smartphone avant 13 ans et pas de réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Voici les recommandations qui seront remises aujourd'hui à Emmanuel Macron, rédigées par des experts dans un rapport commandé par le président de la République pour lutter contre les méfaits des écrans. Détail dans le journal de 7 heures. Y aurait-il un nettoyage social en Ile-de-France à l'approche des Jeux Olympiques? C'est ce que dénoncent depuis des mois les associations d'aide aux plus démunis. Au chevet d'une 50aine de familles qui squattent des bureaux désaffectés de Montreuil depuis 2 ans. Leur expulsion est imminente. Elles ont été prévenues par les forces de l'ordre. Ce sont des familles d'origines africaines qui comptent une 15aine d'enfants et de nourrissons et au moins 5 femmes enceintes. Reportage Ajra Mohamed.
Un plat là.
Salima berce la petite Tichami dans ses bras. C'est son premier enfant, né il y a 3 mois. Après une grossesse compliquée passée dans ce squat, la jeune Ivoirienne pensait avoir vécu le pire. Mais l'idée de dormir à la rue la terrifie encore plus.
C'est compliqué avec l'enfant. Elle est trop petite pour vivre dehors. C'est pas possible du tout.
Donc j'ai peur de partir.
La peur aussi pour Jenaba. Sous son pull ample, on devine un ventre rond. Elle est enceinte de 4 mois.
Je me sens du mal parce que c'est pas du tout facile de vivre dehors. Parce que j'ai déjà vécu ça. Surtout nous les femmes, on est très en danger dehors.
Chaque soir, ces femmes passent un appel au 115 en vain, rappelle Paul Allozy, coordinateur à Médecins du Monde.
Aujourd'hui, il faut des critères extrêmement resserrés au 115. Il faut être enceinte de plus de 8 mois, donc être enceinte de 6 mois, ça ne suffit pas. On peut dormir à la rue quand on est enceinte de plus de 6 mois. Il faut un nourrisson, mais il faut un nourrisson de moins de 3 mois, parce que s'il a plus de 3 mois, apparemment la rue, c'est convenable. En fait, aujourd'hui, on marche sur la tête, la saturation est telle qu'on crée des critères complètement impossibles à respecter.
La semaine dernière, 58 femmes enceintes et 93 bébés sont restés à la rue en Seine-Saint-Denis, malgré un appel au 115.
Ajra Mohamed, des dizaines de migrants refoulés de trains au départ de Calais hier soir. La police les a empêchés d'embarquer en direction des plages où ils espéraient pouvoir prendre la mer pour l'Angleterre. 4 médailles de champion de France aux 100 mètres, mais pas de Jeux Olympiques. Pour Mouhamadou Fall, le sprinteur vient d'être suspendu 9 mois après un contrôle antidopage positif. Jérôme Val, l'athlète français de 32 ans, était sur le fil du rasoir depuis plusieurs années.
Mouhamadou Fall était déjà dans le collimateur de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'AFLD, en 2022. Il avait à l'époque raté 3 obligations de localisation antidopage, une affaire pour laquelle il a été relaxé l'été dernier, mais avec un recours devant le Conseil d'État, elle est toujours une menace pour lui. Cette fois, il lui est reproché l'utilisation d'une substance interdite en compétition, l'heptaminol. Il avait été contrôlé positif lors des derniers championnats de France. Celui qui domine le 100 mètres tricolore depuis 4 ans, assure être victime d'une contamination à cause d'un complément alimentaire, ce que d'ailleurs la commission des sanctions de l'AFLD reconnaît, mais elle lui reproche sa négligence dans l'utilisation de tels produits. Alors au lieu des 2 ans encourus, il écope de 9 mois de suspension. Mouhamadou Fall, l'un des cadres du relais du 4x100 mètres français, s'entraîne aux États-Unis et on ne devrait plus le revoir sur une piste avant 2025.
Jérôme Val, ses avocats étudient la possibilité de faire appel. Enfin, Bayern Munich, Real Madrid, la première affiche de la demi-finale allée de la Ligue des Champions est alléchante ce soir. Deux, les Allemands et les Espagnols comptent 20 titres européens, 14 pour le Real, 6 pour le Bayern. Demain soir, le PSG est attendu sur la pelouse de Dortmund.
Florence Paracuellos, la ministre de l'Éducation et l'invitée du grand entretien à 8h20, Nicole Belloubet, nous dévoilera les conclusions de la mission Flash lancée après l'agression de Samara, 13 ans, devant son collège à Montpellier au début du mois. Au menu de cet entretien également, le rapport très attendu sur les conséquences des écrans sur les mineurs, avec comme d'habitude vos questions au 01 45 24 7000. Le standard ouvre à 7h. Autre invité de la matinale, le comédien Ryan Gosling à 7h50. Il est à l'affiche de The Fall Guy, un film inspiré de la série des années 80, L'homme qui tombe à pic. Cette comédie sort demain au cinéma.
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce mardi, je vous raconte le combat du groupe Nakam. Une cinquantaine de femmes et d'hommes juifs d'Europe de l'Est, rongés par l'envie de se venger de la Shoah.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h sur Inter.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Il est 6h42.
France Inter. Le 5-7.
Et voici des chroniqueurs qui carburent à l'info. Bonjour l'équipe du Carrefour.
Bonjour Mathilde.
L'histoire du monde, Anthony Bélanger.
Eh bien, le maire de Riga, en Lettonie, appelle ses concitoyens à transformer chaque cave d'immeuble en abri anti-aérien. Avec la Russie voisine, comment dire, on n'est jamais trop prudent.
L'histoire économique, Philippe Mabille.
L'intelligence artificielle générative est utile, mais vaut-elle réellement les dizaines de milliards qu'on y consacre, les investisseurs commence déjà à se poser la question.
Capture d'écran, Eva Roque.
Ce matin, il est question de balles de tennis et de balles réelles sur le fond ukrainien.
Une info, Daniel Morin.
Arnaud Lagardère est mis en examen pour avoir utilisé l'argent de ses sociétés à des fins personnelles. Je ne peux plus taper dans la caisse, à quoi ça sert d'être patron, hein.
Adrien Matou, c'est vous qui ouvrez le bal. Votre histoire politique s'attarde sur une liste de gauche qui a bien des difficultés à se faire entendre dans la campagne pour les européennes.
Et cette liste, c'est celle du Parti communiste français qui ferme la marche à gauche dans les intentions de vote. Dans les sondages, la liste du PCF, qui est menée par le jeune Léon Desfontaines, est donnée à 2 ou 3% en dessous du seuil de 5% qui permet d'envoyer des eurodéputés à Bruxelles. Les communistes font donc figure de petits poussets à gauche et pourtant ils se démènent pour tenter de faire connaître leur ligne politique assez singulière.
En quoi consiste-t-elle cette ligne politique ?
Dans les années 70, c'était un corpus idéologique assez classique, une ligne de gauche, populaire, républicaine, ostensiblement tournée vers la classe ouvrière. Mais depuis, le reste de la gauche a bougé, a évolué, si bien que le parti est devenu une sorte d'ovni politique. Alors cette ligne, c'est donc celle impulsée par Fabien Roussel, depuis qu'il a repris en main le PCF en 2018. Et en matière de communication, elle consiste notamment à mettre en avant les divergences qu'ont les communistes avec les autres partis de gauche. Alors au PCF, on critique les écologistes, accusés d'être décroissants, déconnectés des réalités et antinucléaires. Mais on s'attaque aussi aux insoumis, jugé coupable d'avoir tourné le dos à la laïcité et d'instrumentaliser la cause palestinienne. Et bien sûr, on n'épargne pas les socialistes et leur champion Raphaël Glucksmann. Quand le PS rêve d'une Europe fédérale, les communistes mettent en avant leur attachement à la souveraineté. Ils s'opposent à tout élargissement de l'UE et ils accusent les socialistes d'être des va-t-en-guerre au sujet du conflit en Ukraine.
Mais visiblement, cette stratégie ne permet pas au PC de convaincre beaucoup d'électeurs.
Ah, c'est tout le paradoxe de ce nouveau parti communiste. Il est aujourd'hui identifiable, son message est clair, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la politique. Il suscite même une certaine sympathie chez les Français, en témoignent les bons scores de popularité de Fabien Roussel. Mais ça n'a pas fonctionné électoralement à la présidentielle, et les sondages indiquent que ça ne prend pas non plus vraiment aux européennes.
Et on peut l'expliquer ça ?
Il y a deux hypothèses. La première, plutôt optimiste pour les communistes, consiste à dire que c'est une affaire d'élection. Après tout, le PCF veut incarner une gauche populaire et rurale, or les européennes attirent plutôt un électorat habitant les centres-villes et diplômés, davantage séduits par le discours de Raphaël Glucksmann. Et c'est là qu'intervient la deuxième hypothèse qui, elle, pose une question plus fondamentale. La gauche est-elle capable de séduire à nouveau ses ouvriers et ses employés qui habitent la France périphérique ? Ne s'est-elle pas enfermée dans une sorte de ghetto électoral, une bulle urbaine tellement coupée du reste de la société qu'elle rendrait impossible la reconquête des classes populaires ? Cette question, elle dépasse évidemment de loin celle de l'avenir du Parti communiste et ce sera tout l'enjeu des trois années à venir pour la gauche.
Adrien Matou, rédacteur en chef du service politique de Marianne. Il est 7h moins le quart, l'histoire du monde, Anthony Bélanger. Le maire de Riga, en Lettonie, veut des abris anti-aériens partout dans sa ville.
Oui, Vilnius, car Kirsis n'y est pas allé par quatre chemins. Nous demandons à chacun de s'assurer que sa cave ou son sous-sol puisse être utilisé comme abri en cas d'urgence. Évidemment, le cas d'urgence, c'est une attaque russe. La Lettonie est un peu moins grande que l'Irlande et partage près de 300 km de frontière avec la Russie. Or, depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, le pays ne cesse de renforcer ses défenses. Le gouvernement a d'ailleurs déjà lancé un plan abri pour la capitale. Les sous-sols de 100 édifices publics par mois seront aménagés en abris anti-aériens d'ici la fin de l'année. Écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs et même maisons de retraite. Il était temps, selon monsieur le maire, de mobiliser plus largement la population.
Mais ça ne risque pas de paniquer la population plus que de la mobiliser ?
Oui, alors sauf que les quelques 2 millions de Lettons ont appris à vivre avec cette menace russe et cet appel à transformer les sous-sols en abris anti-aériens n'est que la dernière des recommandations et mesures prises par les autorités. En janvier, les trois pays baltes, Lettonie, Lituanie et Estonie, se sont entendus pour créer une zone défensive commune le long de leurs frontières avec la Russie et la Biélorussie. L'Estonie, par exemple, veut disposer de 600 bunkers. Leur construction commencera dès le début de l'année prochaine. Et chacun d'entre eux pourra accueillir et protéger 10 soldats. Quant à la Lituanie, elle veut atteindre 3% de dépenses militaires d'ici 2 à 3 ans.
Et la Lettonie, qu'a-t-elle décidé ?
Eh bien, de restaurer le service militaire obligatoire. La Lituanie l'a déjà remis en place en 2015 et l'Estonie ne l'a jamais abandonné. Mais la Lettonie l'avait aboli en 2006, 2 ans après son entrée dans l'OTAN, et ne l'a rétabli que l'année dernière. Les premiers conscrits lettons ont donc été accueillis dans les casernes en début d'année. Tous les hommes de 18 à 27 ans devront désormais effectuer 1 an de service militaire obligatoire, et oui Adrien, qu'ils vivent ou non dans le pays. Ils toucheront un solde de 300 euros par mois et auront droit à 1 mois de permission. L'idée pour la Lettonie, évidemment, est de renforcer et de disposer d'une force armée de 61 000 hommes d'ici 8 ans, pour moitié composée d'unités de réserve, ce qui, à titre de comparaison, représente tout de même près du tiers du nombre de militaires français d'actifs.
Qu'envisage la Lettonie Lettonie en cas d'attaque russe ?
Bien, la Lettonie regarde très attentivement la guerre en Ukraine. Elle veut donc avant tout protéger sa population, mais aussi stocker des munitions en quantité et disposer de défenses antiaériennes solides, ce qui signifie une forte augmentation de ses dépenses militaires. Le pire des scénarios serait celui du coup de main. Une attaque terrestre massive de Moscou assortie d'une menace crédible d'attaque nucléaire. Si l'Occident se mêle d'intervenir, l'OTAN serait-elle prête alors à entrer en guerre pour sauver les Baltes, surtout si Donald Trump venait à être élu.
Anthony Bélanger pour l'Histoire du Monde. On passe à l'écho.
Histoires économiques avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
L'histoire économique avec Philippe Mabille. Vous revenez ce matin sur les espoirs engendrés par l'intelligence artificielle dans laquelle les dépenses se comptent en milliards.
Et même en dizaines de milliards, mais pour quelle rentabilité ? C'est la question que commencent à se poser les investisseurs au vu des sommes colossales qu'on y consacre. Jusqu'à il y a peu, le seul fait de dire qu'on investissait dans l'IA générative attirait les capitaux privés comme un aimant. C'est moins vrai aujourd'hui. J'en veux pour preuve ce qui vient de se passer avec Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, dont le cours de bourse a fortement chuté la semaine dernière, malgré un doublement des bénéfices au premier trimestre. L'annonce par le groupe d'un investissement colossal de 35 à 40 milliards de dollars dans l'IA, rien que pour cette année, a fait frémir les marchés, d'autant que les dépenses seront encore plus élevées en 2025.
Mais pourquoi cela coûte si cher ?
Il faut acheter massivement des microprocesseurs de dernière génération qui sont indispensables à l'entraînement des modèles d'IA générative et coûtent des fortunes. Cette inflation des coûts place la barre très haut pour ceux qui tentent de suivre le rythme. À l'exemple du petit Mistral, le champion français de l'IA, qui a dû se rapprocher de l'américain Microsoft pour poursuivre sa route.
Et quels sont les bénéfices que Facebook attend de l'IA ?
Pour rentabiliser son investissement, Mark Zuckerberg parie sur l'accroissement des recettes publicitaires engendrées par l'utilisation de son nouvel assistant virtuel Meta AI. Il compte aussi sur les abonnements en faisant payer un droit d'accès aux modèles plus performants. Microsoft aussi tente de faire payer aux entreprises son nouveau logiciel Copilot à hauteur de $30 par utilisateur et par mois. Même chose pour le logiciel Gemini de Google ou GPT-4 d'OpenAI. Mais l'adoption reste très lente car les entreprises ne sont pas encore prêtes pour un déploiement massif.
Est-ce que l'IA vaut réellement tous ces milliards ?
18 mois après le lancement de ChatGPT, on commence à revenir à la raison sur les bénéfices attendus de l'IA générative à court terme. C'est très bien pour faire des comptes rendus de réunion, automatiser certaines tâches très normées, juridiques ou comptables, mais les modèles font aussi des erreurs et ont des hallucinations, c'est-à-dire qu'elles inventent une réponse présentée comme vraie. Bref, on est peut-être déjà en train d'atteindre le sommet des attentes disproportionnées du cycle de l'innovation défini par le cabinet de conseil américain Gartner. Avant d'arriver à maturité, cette technologie prometteuse pourrait bien traverser le creux des désillusions qui signale la fin de la hype. Bref, le remplacement de l'homme par des machines plus intelligentes n'est pas encore pour demain, peut-être pour après-demain, si les milliards continuent d'y être déversés.
Philippe Mabille, vous êtes directeur de la rédaction de La Tribune. À vous, Eva Rock, il est 6h51, au cœur de votre capture d'écran, le destin d'un homme.
Juin 2013, deuxième tour de Wimbledon, du tournoi de Wimbledon, balle de match entre le redoutable Roger Federer et un modeste joueur ukrainien, Sergei Stakhovski. Quatre sets et une victoire inespérée pour le jeune Ukrainien. 10 ans plus tard, pas de gazon à l'horizon, mais une école de sport à moitié détruite non loin de Bakhmout en Ukraine. Et au détour d'une salle, un vieux piano. Entre deux coups de feu, quelques notes jouées par Stakhovski en tenue militaire et casque de protection sur la tête. En 2022, au premier jour de la guerre en Ukraine, le tennisman n'a pas hésité à déserter les cours pour prendre les armes. Un patriote âgé de 38 ans aujourd'hui qui a dû laisser sa famille derrière lui.
J'ai 3 enfants. Je ne leur ai pas dit que je partais. Je leur ai dit, je descends juste au garage et je reviens. C'était l'un des moments les plus durs de ma vie.
The hardest moment in life that I had.
Et il ajoute face caméra, évidemment, je sais qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie pas.
Où a été tournée l'interview ?
Alors c'est difficile à dire. Dans une planque, de toute évidence, une sorte de minuscule abri, un peu sordide. Et le documentaire repose sur ce grand entretien, sur des images des différentes missions qu'il mène sur le front également, sur des archives familiales et sur ses plus beaux moments de sa carrière sportive. Le contraste entre ces différents quotidiens est saisissant. Une vie de luxe et d'exploit d'un côté, une vie suspendue de l'autre, marquée par le manque de sommeil et ce froid qui engourdit et va jusqu'à ralentir le fonctionnement du cerveau. Stakowski a tout quitté pour cette guerre, une guerre qui l'a métamorphosé et l'a séparé de sa femme d'origine russe.
Depuis le premier jour, mon ex-femme a essayé de soutenir l'Ukraine comme elle pouvait. Donc il n'y a pas de lien entre ses origines et le fait que ça se soit terminé comme ça. Pour moi, la guerre a accéléré beaucoup de choses. Et la guerre m'a changé moi et ma compréhension du bonheur. C'est juste une question de nature humaine.
Alors comment croire au bonheur quand on est au front ? Eh bien Stakowski n'a pas la réponse. Lui ne cesse de penser à ses enfants.
On ne dit pas aux enfants que je suis au front. On essaie de les laisser loin de cette grande guerre et du fait que notre famille soit des deux côtés. Ils comprennent petit à petit que quelque chose se passe. Je ne leur dis pas que papa est à la guerre. Je leur dis que papa est au travail. Ils comprennent entre les lignes.
Au fil des jours, Stakowski, raconte la peur, la difficulté à retrouver une vie presque normale quand il bénéficie de plusieurs semaines de repos. Stakowski ne cesse pourtant d'espérer, espérer des jours meilleurs pour l'Ukraine, pour lui et ses proches, même s'il dit...
On vit au jour le jour, on ne vit pas en pensant qu'il y a un autre jour après-demain. On espère juste être encore là demain.
Ce documentaire de Nicolas Jambou est remarquable, sans jamais verser dans le pathos. Il donne à voir la guerre à hauteur d'homme et illustre avec émotion ce qu'est le basculement d'une vie.
À balles réelles, un documentaire à voir sur le site et l'application de l'équipe. Il faut être abonné. Il est 7h05.
France Inter. Abonnez-vous au newsletter.
Chaque jour, l'essentiel d'Inter dans votre boîte mail. Chaque semaine, le meilleur de l'humour et nos conseils culture.
Pour recevoir nos newsletters, inscrivez-vous sur franceinter.fr.
La météo ?
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Le temps reste encore bien agité, Elodie Calac. Elodie, est-ce qu'on va la voir ? Non ? Ah, Marie-Pierre Pranchon, oui, vous êtes là finalement.
Elle est plus rapide, Mélodie.
Voilà. Bah voilà, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes perdue dans le couloir, Marie-Pierre.
Non, on a un petit problème d'imprimante.
Bah voilà.
Ah bah oui, ça arrive.
Alors, un temps perturbé aujourd'hui sur une grande partie du pays.
Eh oui, Mathilde, on aura vraiment deux phénomènes toujours. Une perturbation qui arrive de l'Irlande et qui va rentrer sur le Finistère avec de la pluie, du vent. Et on a la perturbation d'hier qui se redresse et qui arrose toutes les régions, comprises entre l'Occitanie en montant vers les Cévennes, le bassin parisien, Hauts-de-France, alors que de chaque côté, vous pouvez compter ce matin sur de belles éclaircies, de la Normandie en descendant jusqu'au Pays Basque et l'ouest des Pyrénées, ainsi que sur les régions de l'Est, de l'Alsace à la Corse avec des nuages sur les Alpes frontalières et de la neige à haute altitude, comme d'ailleurs sur l'Est des Pyrénées, sous un mercure contrasté, hein, alors que c'est descendu à 1 degré à Mout dans le Doubs. Il fait 2 à Flers dans l'Orne, mais vous avez 12 à Paris et Strasbourg et 18 à Vintimille.
Et on n'aura pas beaucoup d'évolution cet après-midi.
Si ce n'est des orages qui vont éclater sur toute la partie de la perturbation d'hier, des Hauts-de-France au centre, à la Bourgogne et à la vallée du Rhône. Le ciel restera plus sec sur les régions de l'Est avec la remontée des poussières du Sahara. Et on sera souvent côté du mercure, proche des 20 degrés, excepté vers la Bretagne où vous n'aurez pas plus de 13 degrés. À Quimper, il fera 15 à Toulouse, mais comptez 18 à Cherbourg, 22 à Bordeaux, Dijon, Nice, Biarritz et 26 à Strasbourg.
Marie-Pierre Planchon, allez, c'est à vous, Daniel Morin, vous écoute.
Je suis crevé, les amis, rincé. Hein. Hier, c'était la journée mondiale de la danse, et comme la danse, c'est ma passion, j'ai mis mon corps à l'épreuve. Je pratique plus beaucoup, mais le corps a de la mémoire, et il ne m'a pas trahi. Je me suis installé dans le salon, j'ai poussé les meubles, j'étais en juste au corps, face au grand miroir, et en route biloute. Ah, j'ai pas commencé moderato, hein. Bam ! Le lac des Cygnes. Là, tout est dans la suggestion. Tout est dans la cheville. Si tu bloques bien ta cheville, tu réussis tes pointes. C'est la base. Purée, elles sont belles, mes pointes. Hein. Quand je pense que la semaine dernière, j'avais encore un panari aux grands orteils. Quelle dignité, quand même. Importance capitale, hein. Tu te tiens droit pour le lac des Cygnes. C'est pas du chaloupé. Tchaïkovski, c'est pas Francky Vincent. Technique et dignité, c'est le secret pour le lac des cygnes. Si t'es pas digne, ça se transforme vite en danse des canards. Putain, je suis fluide, on dirait une étoile du Bolshoï. Ah, derrière, j'ai un petit problème. Je suis un peu trop cambré. Moi, la belle musique, ça me transcende. Du coup, j'ai le croupion qui remonte. Oh merde, il y a Moumoune qui arrive. Qu'est-ce que tu fais déguisé en saucisson? Je suis pas déguisé en saucisson, je suis juste au corps. Bah, assieds-toi et admire. Tu fais quoi? Je rends hommage à la danse. La pauvre. Tu reconnais? C'est le lac des cygnes. Ah, du chiot, on dirait plutôt la marche de l'empereur. Elle a gâché mon moment. Elle a gâché mon moment. Bon, j'ai pu en profiter un peu, quand même. Sinon, hier, le futur TGV a été dévoilé à la presse. Oh, il est beau, nom de Dieu. La mise en scène était soignée. Le train sortait au ralenti d'un hangar avec effet fumigène. C'était grandiose. Waouh! C'est le futur qui arrive vers nous. Plus grand, plus rapide, plus économe. Quelle réussite, les amis! Quelle performance! Waouh! Mesdames, messieurs, en raison d'un problème technique dû au fumigène, le TGV 0001 est à l'arrêt. En attendant, pourquoi ne pas aller à la rencontre de Jean-Claude, notre barista, voiture numéro 4, qui vous proposera un large éventail de plats chauds, de boissons fraîches, de desserts gourmands et de petits bonbons. Mesdames, messieurs, le problème technique est à présent résolu. Je vous demande encore un peu de patience. Un mulot s'est introduit dans le train et conformément à nos engagements avec l'association Amour du Vivant, nous devons attendre qu'il quitte de lui-même notre TGV. Je vous rappelle que Jean-Claude, votre barista, est toujours à votre disposition, voiture numéro 4. Et en ce moment, les curlis sont à moins 30%. Pourquoi se priver?
Bon, au final, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Tout le monde est content et le nouveau TGV, je l'ai vu, est sublime. Alors pour conclure, Canal+ va produire un nouveau film des aventures d'Astérix. C'est une bonne nouvelle, tout le monde aime Astérix. Ben, ça, les personnages de BD, on adore. Ça nous rappelle l'insouciance de la jeunesse. Hein. Ça explique sûrement le succès de qui vous savez. Mmh. Bah oui, lui, notre voisin de studio, lui qui plane sur les audiences, il a carrément un côté cité d'or.
Enfant du lever de soleil, Esteban Nico, le grand candeur de l'info, qui dès 7h met son diadème et ses bracelets dorés, ardent défenseur.